Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Édition spéciale du monde aujourd'hui en ce vendredi 3 mai. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Jacques Aristide et Raissa Gironda pour vous accompagner.
L'événement est célébré pour la 26e année à l'initiative de l'UNESCO. Le thème 2019, médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation.
L'ONG Reporters sans frontières s'inquiète de la situation en Afrique.
Il y a des pays dans lesquels il n'y a plus du tout de médias et de journalistes indépendants.
Une occasion de braquer les projecteurs sur la protection des journalistes en zone de conflit.
Gros plan également sur le phénomène des fake news.
Tout citoyen qui a un compte Facebook ou Twitter peut se permettre de donner l'information.
Nous ferons aussi un tour d'horizon des autres titres de l'actualité sans oublier vos rubriques économiques et sportives, mais tout d'abord le journal.
Addis Abeba accueille la conférence internationale à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce vendredi. L'événement, organisé conjointement par l'UNESCO et le gouvernement éthiopien, a lieu au siège de l'Union africaine. Le rôle des médias dans les élections et la démocratie est au cœur des débats. Le prix mondial de la liberté de la presse est décerné cette année au reporter de Reuters, emprisonné en Birmanie, Kiawaso-U et Wallon.
L'occasion de dresser un état des lieux en Afrique. Quels sont les principaux obstacles à la liberté d'expression sur le continent? La réponse d'Arnaud Froger, directeur Afrique de Reporters sans frontières.
Ce que l'on constate à RSF, c'est que 22 pays sur 48 sont toujours classés en rouge ou en noir dans l'index, ce qui signifie que leur situation est difficile, voire très grave. Il y a des pays dans lesquels il n'y a plus du tout de médias et de journalistes indépendants, comme en Érythrée et à Djibouti. Il y a des pays où les conflits n'ont pas été résolus. C'est le cas au Burundi, c'est le cas au Cameroun, qui traverse une grave crise dans ces régions anglophones et qui est une crise post-électorale. C'est difficile à couvrir les élections, des journalistes d'investigation qui sont traqués et de plus en plus de restrictions en ligne avec des coupures des réseaux sociaux et d'Internet et puis des États qui n'hésitent pas à utiliser tout un tas de stratagèmes pour empêcher la circulation des informations en ligne, par exemple en augmentant les taxes sur les réseaux sociaux.
C'était Arnaud Froger, des propos sont recueillis par Morgane Guiriec.
En marge de cette journée, l'ONG congolaise Journalistes en danger demande la réouverture des enquêtes concernant les meurtres de moins 14 journalistes en RD Congo durant la présidence de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila. Pour l'ONG, les principaux suspects doivent répondre de leurs actes. L'ancien porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a réagi en affirmant que là où la justice a déjà tranché, qu'est-ce que M. Kabila a à voir dans ses affaires? C'est une confusion de genre, dit-il. La RDC occupe la 154e place sur 180 pays dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières.
Des diplomates de l'Union européenne, des États-Unis et de 14 autres pays ont fait part ce vendredi de leur vive inquiétude face aux récentes attaques des autorités contre la liberté de la presse et celle de manifester en Ouganda. Leur prise de position commune intervient alors qu'une décision de la Commission de régulation des médias suscite de nombreuses critiques dans le pays. Elle a ordonné à 13 radios et chaînes de télévision de suspendre leurs rédacteurs en chef, producteurs et responsables des programmes en raison de la manière dont elles ont couvert la récente arrestation de Bobi Wine, député de l'opposition et possible adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021. Nous reviendrons sur cette journée mondiale tout à l'heure dans notre segment magazine.
Dans le reste de l'actualité, au Mali, 18 civils ont été tués dans une double embuscade menée par des hommes armés à 2 jours d'intervalle dans une même commune du centre du pays où opèrent des djihadistes. Il s'agit de la commune rurale de Mondoro. Des enquêteurs ont été envoyés ce vendredi dans la zone.
Et cette nouvelle tuerie survient au lendemain de la publication du rapport d'enquête de l'ONU sur le massacre en mars dernier de près de 160 habitants du village Peul d'Ogossagou, toujours dans le centre du Mali. Pour la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays, l'attaque pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité. Alors comment Bamako accueille ce rapport? Kadiatou Traoré a posé la question au procureur du pôle judiciaire antiterroriste, Boubacar Sidiki Samake.
Nous accueillons normalement ce rapport-là. Ce sont des gens que nous allons traduire en justice. Nous avons au Mali le cours judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée qui est chargé du traitement judiciaire de cette affaire-là. Donc, de le préparer pour l'envoyer en jugement. Nous allons enquêter et nous allons instruire les faits. Nous retenons des qualifications d'actes terroristes, nous retenons des qualifications d'assassinat, nous retenons des qualifications qui s'analysent comme étant des violations graves du droit international humanitaire, comme des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, tout ça. Mais en ce qui concerne le génocide, il y a encore des choses à rechercher. Il y a des éléments à rechercher pour savoir comment c'est planifié, comment c'est exécuté et contre une seule race, par exemple, ou une seule ethnie. Mais nous pensons que ce qui s'est passé est très très grave et que les auteurs doivent être recherchés et traduits en justice.
Au Niger, au moins 4 personnes ont été tuées ce vendredi après le passage d'un véhicule de transport en commun sur une mine près de la commune d'Inates, pas loin de la frontière malienne, dans la région de Tillabéri. 3 autres ont été grièvement blessés, compte rendu de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
L'information a été confirmée à VOA Afrique par le maire de la commune d'Inates, Abdoulaye Ismag.
C'est un véhicule qui a quitté Tillabéri ce matin, dans lequel il y a des ressortissants d'Inates. Ils sont partis adresser les condoléances. À 4 km d'Inates, donc, le véhicule a sauté sur une mine. Il y a eu 4 morts. Et 2 ou bien 3 blessés. Ce n'est pas une première. Ça fait longtemps. Les gens sont en train de placer les mines là-bas. On ne sait même pas, on ne peut même pas identifier qui est en train de placer ces mines.
La situation inquiète l'autorité et même les populations. Le 26 avril dernier, des hommes armés non identifiés ont exécuté un chef Touareg très influent dans la même zone pour, dit-on, sa loyauté à l'État central de Niamey. Hier, toujours dans la zone de Tillabéri, 2 véhicules de l'ONG Médecins sans frontières ont été emportés par des hommes armés qui ont pris la direction de la frontière malienne. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Cotonou, la capitale économique du Bénin, a renoué ce vendredi avec le calme et ses activités habituelles, même si les esprits sont toujours échauffés après 2 jours de violence dans la foulée des législatives sans la participation de l'opposition. Des soldats sont toujours déployés dans certaines rues de Cotonou après ces violences qui ont fait au moins 2 morts.
Nouveau vendredi de contestation en Algérie, le dernier avant le Ramadan. De très nombreux Algériens manifestent une nouvelle fois à Alger pour ce 11e vendredi consécutif. Ils entendent démentir les craintes d'essoufflement du mouvement. Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, est particulièrement visé aujourd'hui par les slogans « Il est l'homme fort de facto du pays depuis qu'il a lâché le président Abdelaziz Bouteflika, dont il était un indéfectible soutien depuis 15 ans, rendant inéluctable sa démission. Pour sa part, il dit soutenir le processus de transition mis en place conformément à la Constitution, dont l'organisation d'une présidentielle le 4 juillet pour élire le successeur de M. Bouteflika.
Retour en République démocratique du Congo où 4 militaires et 13 miliciens sont morts lors de l'attaque d'une position de l'armée congolaise au bord du lac Albert par une milice locale active dans le nord-est du pays. Cela s'est déroulé hier à Moussékéré dans l'Ituri et selon l'armée, les assaillants appartiennent à un groupe armé constitué de membres de la communauté Lendu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Venezuela, 2 jours après une tentative ratée de soulèvement, l'opposant Juan Guaido appelle à manifester en paix demain devant les casernes du pays pour demander à l'armée de lâcher le président Nicolas Maduro. Quelques 25 militaires rebelles ont demandé l'asile à l'ambassade du Brésil à Caracas, puis Leopoldo López, une des figures de l'opposition qui était assignée à résidence depuis 2017, et était apparue aux côtés de Juan Guaido et des soldats insurgés. S'est ensuite réfugié dans l'ambassade d'Espagne. La justice vénézuélienne a ordonné hier l'arrestation de Leopoldo López, d'après la Cour suprême.
Et par ailleurs, l'armée américaine prépare des options adaptées aux évolutions sur le terrain au Venezuela. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, après avoir accueilli au Pentagone les responsables de l'équipe de sécurité nationale du président Donald Trump.
En Afghanistan, la Loya Jirga, vaste assemblée de hauts dignitaires, s'est conclue aujourd'hui à Kaboul sur un appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent. Le président Ashraf Ghani a également annoncé en signe de bonne volonté la libération de 175 prisonniers talibans, un appel que les talibans ont aussitôt implicitement rejeté. Ces derniers, dans un communiqué, ont déclaré que les moudjahidines essaieront de ne pas infliger de pertes aux civils pendant et après le Ramadan qui devrait débuter dimanche ou lundi.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame à nouveau le désarmement du mouvement chiite Hezbollah au Liban, ainsi que l'arrêt de ses interventions militaires en Syrie voisine. Antonio Guterres, dans un rapport, souligne qu'il importe également de se pencher sur l'élaboration d'une stratégie de défense nationale. Inscrit sur la liste noire américaine des organisations terroristes, le Hezbollah est le seul mouvement à ne pas avoir déposé les armes à la fin de la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990. Il a mené 3 guerres contre Israël.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir.
C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Le Kenya bénéficiera de 250 millions de dollars de la Banque mondiale pour financer l'accès aux logements abordables. Le nouveau financement permettra d'accorder des prêts à long terme aux Kenyans désirant obtenir un logement. Les prix du sucre ont légèrement reculé sur la semaine. La faiblesse du réal brésilien et l'ample offre sur le marché ne permettent pas au sucre de se redresser, ont résumé les analyses de Commerzbank. Quand la monnaie du Brésil, premier producteur mondial, est affaiblie, les exportateurs peuvent se permettre d'accepter des prix plus bas sur le marché international, puisqu'ils sont fixés en dollars et qu'ils réalisent un bénéfice en reconvertissant leurs gains en réal. Le café a poursuivi son recul sur la semaine. Le Robusta a atteint vendredi 1352 dollars la tonne à Londres, son plus bas niveau depuis plus de 3 ans. Les informations venues du Brésil indiquent qu'il y a eu des pluies peu abondantes sur les principales régions productrices, ce qui est bon pour les récoltes, ont commenté les analyses de IMA Smith. Le Brésil est le premier producteur mondial d'Arabica et un producteur important de Robusta. Enfin, les prix du cacao sont restés stables sur la semaine, évoluant plutôt au gré de la vigueur du dollar et de la livre. Aucune nouvelle venue de la principale région productrice, l'Afrique de l'Ouest, n'est venue affecter le marché.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
En Ligue 1 française, Kylian Mbappé suspendu pour encore 2 matchs.
Oui, l'homme a déjà purgé un match de suspension pour une semelle sur le genou du Rennais Damien Da Silva, qui avait pu finir le match de finale de Coupe de France. Par ailleurs, une procédure a été ouverte contre Neymar pour son geste d'humeur envers un spectateur, indique ce vendredi l'instance disciplinaire de la Fédération française de football. Le cas de Neymar est plus complexe puisqu'il a été provoqué par un fan de Rennes en tribune auquel il a donné un léger coup après le match.
Angleterre, fin de saison pour Naby Keïta, le joueur de Liverpool blessé.
Oui, le milieu de terrain guinéen de Liverpool, Naby Keïta, sera au moins 2 mois sur la touche à cause d'une blessure à un adducteur qui le rend très incertain pour la Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet prochain, a annoncé son entraîneur Jurgen Klopp ce vendredi. Le joueur s'était blessé après une vingtaine de minutes de jeu mercredi à Barcelone lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions perdue par les Reds 3-0.
Mexique, les Dorados de Maradona accrochés en finale aller de la D2.
Oui, les Dorados entraînés par la légende du football Diego Maradona ont fait un match nul, 1-0 à domicile lors de la finale aller du championnat de division 2 mexicaine jeudi, compromettant leur chance de monter. Le match retour aura lieu dimanche prochain sur le terrain de l'Atlético San Luis, une des meilleures équipes de la saison régulière et vainqueur de l'Apertura. L'Apertura, c'est la manche aller du championnat. On est groggy, c'est la réalité, mais pas KO. C'est dommage car les garçons ont fait un énorme effort, a commenté Maradona, le pibé de Oro, âgé de 58 ans, arrivé en septembre dernier sur le banc des Dorados.
Merci Bagassi Koura.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin et Jacques Aristide, toujours en votre compagnie. C'est l'heure maintenant de vous proposer notre tranche magazine entièrement consacrée à la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Eh bien oui, Raissa, en cette journée du 3 mai qui célèbre bien évidemment les principes fondamentaux de la liberté de la presse, la directrice de la Voix de l'Amérique, Amanda Bennett, s'est exprimée sur l'importance des médias et de l'information. Nous l'écoutons.
Vous savez, ici aux États-Unis, nous disons que ce n'est pas un hasard si la liberté de la presse est le premier amendement de la Constitution. Car à moins de disposer d'une presse libre, qui peut en toute indépendance apporter des informations au peuple, vous ne pouvez avoir une société démocratique. Et vous pouvez constater à travers le monde, quand les gouvernements sont en difficulté ou font quelque chose que les gens n'aiment pas, ou en cas de prise de pouvoir, de coup d'État ou d'élections contestées, c'est en ce moment qu'ils musellent la presse. Pourquoi cela ? C'est qu'ils se rendent compte que l'information, c'est le pouvoir. Et si les gens ont trop de pouvoir, ils seront en mesure de faire contrepoids au pouvoir des dirigeants.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Direction le Mali, avec près d'une quarantaine de radios et quelques journaux, la presse de Mopti fait face aujourd'hui à plusieurs défis, notamment sécuritaires. Voici le reportage de notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Être journaliste à Mopti aujourd'hui demande un sacrifice. La région est confrontée à d'énormes difficultés. Ousmane Diadié Touré est journaliste de Mikado FM. Il nous parle des défis des hommes de médias du centre du Mali.
Les défis dans les régions centre, je dirais Mopti et Ségou, sont essentiellement sécuritaires au jour d'aujourd'hui. Les journalistes, surtout dans certaines localités de l'intérieur, ont du mal à faire leur travail. Ils n'ont pas cette liberté de parole. Ils ont perdu cette liberté même de mouvement parfois.
Ce point de vue est partagé par Dramane Koulibaly, un des doyens de la presse morticienne et correspondant de l'AMAP, l'agence malienne de presse et publicité.
Vraiment, pour pouvoir chercher de l'information, traiter cette information et informer la population, il faut être au plus près de la source. Et si la presse ne peut pas se déplacer partout dans la région pour recueillir l'information fiable auprès de la source, vraiment ça devient un défi majeur.
Eu égard à la situation conflictuelle de la région, le défi doit être celui de la responsabilité et du professionnalisme, estiment certains journalistes. Yacouba Maïga, chargé de communication du gouverneur de la région.
Aujourd'hui, le plus grand défi auquel la presse, surtout au niveau de la région de Mopti, est confrontée, ces défis restent les défis de la bonne information, les défis de la sensibilisation, c'est-à-dire sa contribution face au phénomène que nous vivons aujourd'hui pour que la paix et la quiétude et la cohésion sociale puissent revenir dans notre région.
Pour le directeur régional de la station TVFM de Mopti, la presse est le vecteur de la cohésion sociale. Sékou Konaté estime qu'elle doit permettre aux populations de se parler.
Notre mission fondamentale, c'est de recoudre ce tissu social. Le tissu social fortement entamé, nous devons nous donner comme mission fondamentale de recoudre ce tissu.
Vu la complexité de la situation, les techniciens de l'information donnent les conseils à la nouvelle génération. Ousmane Diadié Touré.
Être très objectif, éviter la corruption. Ce qu'on voit à longueur de journée sur les médias, les réseaux sociaux, surtout, parfois certaines radios d'ailleurs, ou certaines télés, arrivent à donner des informations qui ne sont absolument pas vérifiées et qui se révèlent être complètement erronées. Après, la radio, la presse, la télé s'adressent à des milliers de gens, donc il est très important que tout ce qu'on dit soit vérifié.
Le numéro 1 de l'ORTM Mopti appelle les uns et les autres à plus de responsabilités. Sékou Konaté.
Agir avec beaucoup de mesures et surtout agir avec beaucoup d'humilité. Nous ne sommes pas dans un temps normal, nous sommes dans un temps extrêmement difficile où en tant que communicateur, notre rôle, je le répète, est un rôle central. C'est de savoir parler aux gens. C'est de savoir dire les messages et les vrais messages. Et quels sont ces vrais messages? C'est de dire aux Maliens, nous sommes tous les fils d'un même pays.
Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
au Gabon maintenant. Les médias locaux sont dans le viseur de la haute autorité de l'audiovisuel. Deux journaux d'opinion sont actuellement suspendus pour diffusion de fausses nouvelles. Le reportage est de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Le Gabon occupe le 115e rang dans le classement mondial 2019 de Reporters sans frontières. Le pays est souvent présenté comme faisant partie des zones du continent où la liberté de la presse est bafouée. Parmi les écueils à la pratique du métier, l'accès aux sources d'information et l'autocensure des journalistes. Chamberlain Mukwama, journaliste producteur à la télévision nationale.
Il y a dans notre administration, l'administration gabonaise, des prévaricateurs tapis dans l'ombre, des cadres qui foutent tout en l'air, qui détournent, alors par des façons très élaborées, le matériel de l'État, l'argent de l'État, de la presse peut en parler.
La politisation des médias gabonais est une réalité selon Arnaud Beko, journaliste reporter à Radio Gabon. C'est lié à l'absence des promoteurs privés dans le secteur audiovisuel.
Il manque les promoteurs privés. Ce sont des gens qui ont créé leur organe de presse, qui ont une opinion. Le cas par exemple des pasteurs, des prolongements des chapelles. Le cas par exemple de l'homme politique, pour avoir une vie politique assez large, il crée un média. Il manque derrière la vision. Tout ça là fait que la liberté de la presse souffre de beaucoup d'irrégularités.
Par ailleurs, les journalistes gabonais ont le sentiment d'être pris entre deux feux, à savoir les exigences du public et la volonté des politiques. Yolande V, journaliste.
La liberté de la presse n'est pas respectée au Gabon. Le politique est venu gaspiller notre métier.
Cette année, deux médias d'opinion écopent de 2 à 4 mois de suspension pour non-respect des règles d'éthique et de déontologie. Une sanction de la haute autorité de l'audiovisuel que regrette Jean-Yves Totoum, président de l'organisation patronale des médias.
Le journalisme, c'est sur les faits. Donc, il faut que les gens soient plus professionnels pour que nous ne donnions pas l'occasion à la hague de nous suspendre systématiquement.
Accusé d'être le bourreau des médias, la haute autorité se défend. Jean-François Mouawaka Ngonga, conseiller porte-parole de la hague.
La procédure, elle est souvent respectée. Elle commence déjà par demander à l'organe incriminé de nous apporter les preuves. C'est 14 jours, c'est prévu dans le code de la communication, votre code. Les 14 jours après, si l'organe revient et qu'il n'y a pas de preuve, on n'a pas le choix. Nous sommes une juridiction administrative et en tant que telle, nous appliquons la loi.
Libreville, Ismaël Obiangze, VO Afrique.
Nous poursuivons avec du journalisme en période et en zone de conflit en République démocratique du Congo. Patient Debaba est chargé du programme au sein de la synergie des médias de Fidji et Uvira, deux territoires de la province du Sud Kivu. Il évolue au quotidien dans un contexte des groupes armés et d'affrontements réguliers. Il est au micro de notre correspondant Ernest Mouero.
Les difficultés sont nombreuses parce que d'abord, on a un problème d'accéder à la source d'information. Il y a des faits qui se déroulent dans les hauts et moyens plateaux où, à ce jour, c'est une partie la plus militarisée de la région dont je vous parle. On ne peut pas y accéder parce que tout simplement, nous craignons d'abord pour notre sécurité parce qu'à chaque fois que tu veux te déplacer, qui a toute la possibilité de se croiser avec un groupe armé, une rébellion étrangère qui opère en RDC. Et ça, ça fait un problème sérieux pour équilibrer les sons. Les confrères qui travaillent à Minembwe et à Lemera, à Misisi, à Baraka, à Uvira dans la plaine, à maintes reprises, ils sont intimidés par non seulement les groupes armés, mais aussi les services compétents, l'ANR, l'armée ou la police. Et finalement, on est dans une situation où il suffit seulement qu'une autorité puisse avoir une parcelle de pouvoir pour se doter les pouvoirs d'exercer sur l'information qui doit passer. Nous avons aussi un problème de ne pas accéder aux sources officielles, notamment lorsque tu veux être en contact avec les autorités de la police ou soit de l'armée. Ils vous disent à chaque fois, non, c'est une information top secret. C'est une information qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. Même s'il s'agit d'un petit rien, d'un petit fait, monsieur, nous apprenons qu'il y a eu ceci dans tel endroit. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails par rapport? Ils vous disent chaque fois, secret défense, top secret. Il y a aussi un problème, c'est cette crainte. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une information qui passe, même si tu as équilibré l'information, tu vas écouter, c'est par exemple, un rebelle qui vous appelle. Tu vas écouter, c'est le chef d'un groupe, d'une milice qui vous appelle. Monsieur, vous avez diffusé cette information, ce n'est pas comme ça, diffuser ceci. Oh, dans le contexte de cette zone, comment faire passer le point de vie d'un élément Maï-Maï, même si c'est vrai, comment est-ce que tu seras perçu par les autorités au niveau local? Et à cela se pose la question de la responsabilité sociale, au-delà du fait que ce sont des faits qui se déroulent, mais nous devons à chaque fois s'interroger, est-ce que c'est utile pour la communauté? Et parfois c'est utile, mais on ne peut pas la diffuser parce que tout simplement ça n'a pas été recoupé. Par rapport à d'autres aspects, c'est par rapport aux moyens logistiques que doivent disposer en principe les médias. Nous avons un problème parce que la plupart des médias sont des médias qui n'ont pas suffisamment l'autosuffisance financière. Et en plus de cela, nous avons des médias qui appartiennent à des politiciens. La campagne électorale a pris fin et par conséquent, les politiciens ne peuvent plus, ou soit pour la plupart, ne mettent plus de moyens, ne mettent pas à la disposition des radios, soit des fonds de radio, des moyens conséquents pour couvrir toute la partie parce que tout simplement ils estiment qu'ils ont ouvert des radios pour la campagne électorale. Et s'ils ont gagné la campagne, ils sont à Kinshasa, soit au niveau de Bukavu en province. Et s'ils ont perdu, ils disent qu'ils ne peuvent plus investir. Et ça nous pose un problème parce que nous sommes redevables envers la communauté qui attend de nous des informations crédibles, vérifiées et impartiales.
En Guinée, le taux d'accès à Internet a progressé l'an dernier. 79% des quartiers et districts sont couverts par au moins un opérateur de téléphonie, une couverture qui facilite la communication, mais fait également le lit des fake news. Reportage de Zakaria Kamara, notre correspondant à Conakry.
Le phénomène gagne du terrain et les auteurs de ces fausses informations profitent souvent des moments de troubles et de crises sociopolitiques. Il arrive souvent que ces informations manipulées soient relayées par certains journalistes. Aboubakar Kamara, secrétaire général de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée.
Tout citoyen qui a un compte Facebook, auditeur, peut se permettre de donner une information, peut venir trouver des attroupements quelque part, à partir d'une photo, il peut mettre un commentaire. Vous voyez ? Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est très compliqué, difficile aujourd'hui à cerner. C'est pourquoi il faut élargir les discussions autour de ce phénomène, les fake news.
En Guinée, les manipulations des faits avaient atteint un tel niveau que les autorités judiciaires ont mis en garde toute personne qui publie des informations mensongères sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Les fake news sont dangereuses pour la société, nous dit Alpha Bakar Diallo, reporter. Le jeune journaliste conseille la prudence à tous les professionnels des médias.
Ça décrédibilise nous les journalistes. Parce que quoi qu'on dise, ils vont dire non, c'est un site d'information, c'est un journaliste qui a diffusé. En fait, c'est un couteau à double tranchant. Ça décrédibilise non seulement les médias et les hommes des médias, mais également ça a des conséquences néfastes sur le déroulement de la société.
Les fake news sont accessibles partout. Il suffit d'une connexion Internet pour propager des informations qui sont difficiles, parfois impossibles à vérifier par certains Guinéens à l'image de cet internaute.
Je suis sur les réseaux sociaux, je suis fréquent tout le temps. Après le travail, quand je viens à la maison, je suis sur les réseaux sociaux. Mais de jour en jour, je vois des nouvelles, des renseignements. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Parfois, comme on n'a pas les moyens de voir si c'est vrai, on arrive à prendre des informations comme argent comptant.
Il y a quelques semaines, le gouvernement guinéen était obligé de réagir après la publication d'une fake news annonçant le versement de 2 millions d'euros par le président Alpha Condé, une contribution, selon les auteurs, à la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui avait été détruite par un incendie. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Ainsi va le monde aujourd'hui, spécial journée mondiale de la liberté de la presse. La mise en onde a été assurée par Tchèque Tcherno et, Et c'est Justin Tweet qui était à la technique.
Oui, une petite musique, Raïsa, qu'on dédie à tous nos confrères et consoeurs en Afrique. Et voilà, c'était Raïsa Girondin et Jacques Aristide au micro. Ça a été un plaisir d'être à vos côtés toute cette semaine, Raïsa. Merci beaucoup.
La même.
Et voilà. Donc, en tout cas, nous vous souhaitons un très bon week-end à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt. Oye, ne pasó, oye, nada más que le pila antes dañé, ni a la zona.